Que nous avons passé avec un livre préféré. Ici, me semblait-il, les remplissait pour les autres et que nous écartions comme un obstacle vulgaire à un plaisir divin, le lieu pour lequel un ami venait nous chercher au passage le plus intéressant, l'abeille et le rayon de soleil humain qui nous forçait à lever les yeux de la page ou à changer de place, les provisions de thé qu'on nous avait fait importer et que nous laissions de côté et nous sur le banc, tandis que au-dessus de notre tête, le soleil diminuait de force dans le ciel bleu, le dîner pour lequel il avait fallu rentrer et où nous ne pensions qu'à monter, finir de tout de suite après le chapitre interrompu. Tout cela dont la lecture aurait dû nous empêcher de percevoir autre chose que l'importunité, elle engravait au contraire en nous un souvenir tellement doux que si nous arrivons encore aujourd'hui de feuilleter ce livre d'autrefois, ce n'est plus que, comme le seul calendrier que nous ayons gardé, des jours enfuis, et avec l'espoir de voir refléter sur leurs pages les demeures et les étangs qui n'existent plus. Dessiner par la lecture, qui est un essai de Marcel Proust, un extrait pour introduire cette émission, cette édition de Livre Neuf, qui est une série d'émissions consacrées à la vingtaine du livre. Comme ça, je vous dis bonsoir. C'est avec un grand plaisir que l'équipe de Livre Neuf rentre chez vous pour vous apporter les dernières actualités sur le livre. Aujourd'hui, notre émission va donc être spéciale, et je suppose que vous l'avez deviné, de la maison de Petit-Fer, qui est notre animateur principal, est en voyage, et j'ai avec moi un studio Myrline Pierre, qui va donc animer avec moi cette émission. Je rappelle que Livre Neuf est une émission proposée par la radio Magic Neuf, en partenariat avec la revue L'Aide de Littérature. Bonsoir Myrline Pierre. Voilà, et pour les actualités du livre, aujourd'hui, je vais vous parler de Livre en folie, c'est la grande actualité. que les jeudis 4 et vendredi 5 juin, le Parti Football Athanasie reçoit la 21e édition de Livre en Folie, qui est une activité organisée depuis plus de 20 ans par le journal Le Nouveliste et la Unibank. Dans cette année, l'invité d'honneur est, comme on le sait, Tout au Cavé qui a son actif des livres de poésie, des pièces de théâtre et des chansons, des compositions musicales. Et bien aujourd'hui, à cette édition d'Actu-Livre, je vais vous parler d'un stand qui est un stand des éditeurs indépendants. C'est pour la première fois que des éditeurs s'associent et créent une structure à Livre en Folie en vue d'avoir un stand associatif, donc un stand des éditeurs indépendants. Et bien, ces éditeurs indépendants, ils sont donc les éditions GMK Éditions, les éditions Théard et les éditions des Messes. Et bien, ce stand, étant donné que la liste est déjà publiée dans les colonnes du Nouveliste de ce week-end, vous pouvez voir la liste des livres qui seront disponibles sur ce stand. Et je suppose qu'il n'y aura pas beaucoup, encore qu'il n'y aura pas d'affluence devant le stand, et des idées de ce genre sont donc excellentes dans la mesure où ça permet de diminuer la file d'attente. Eh bien, et Indrana Nusanayadam, les livres d'Indrana Nusanayadam, de Coriolan Ardien, de Bonnel Auguste, de Benjamin Franck, de Georges Castra, de Charles Fabian, de Charles Weber, Pierre Mirline et de Antoine Petitfer, de Sylvie Joseph, du collectif L'Aide Littérature, de la revue L'Aide Littérature, de Dative Moïse, Delva Ewald, de Jean-Claude Fignoli, de Jean Olimac, de Joachim Jean-Dany, de Yannick Lain, de Daniel Laferrière, de Lébo France seront donc disponibles sur le stand des éditeurs indépendants. Et je vous conseille de voir la liste publiée dans les colonnes du Nouveliste de ce week-end. Sans trop tarder, je vais passer le micro à Myrline Pierre pour la présentation de sa chronique, le livre de la semaine. Merci Myrline Pierre, cette chronique tombe bien puisqu'aujourd'hui nous sommes le 31 mai 2015 et c'est également la commémoration de la destruction de maisons des pauvres gens du bas de la ville c'est que votre édition investit ce livre en collaboration avec des écrivains comme Dominique Bacraville, Robert Bolivar, Jean-Watt Pontard, Marc Xavier, Charles de Blanquière, Georges Dimitri, Petit Mars, Jean-Étienne Messi, Émile Prophète, Marie-Alice Théard, David Victoria et Vince Poche. Un livre qui sera disponible à la foire du livre, Livre en folie sur le stand des éditeurs indépendants. Comme je l'ai annoncé au début de l'émission, l'émission d'aujourd'hui va être spéciale. Nous allons parler de littérature, certes de livres, mais précisément de poésie, puisque nous avons studié avec nous deux poètes qui donc vont nous entretenir de leurs œuvres et de leur premier, encore d'un premier recueil de poèmes et d'un autre, je crois que c'est peut-être le troisième. De ce titre. Je vais désormais commencer par présenter les médicaments. Dans les médicaments, je ne sais pas quoi, par quel cercle commencer, puisqu'on a fait que Mehdi est libraire, philosophe de formation, et professeur à l'école normale supérieure, et poète. Il vient de publier son premier recueil de poèmes, Jalir et la solution, mais je dirais que Mehdi Chabon est sincèrement lecteur. Bonsoir Mehdi, bienvenue sur le plateau de Livre d'Affaires.
Bonsoir Robert, merci de m'avoir reçu. Je crois que le sujet du livre, en tant que auteur de ce livre, et puis évidemment, oui, je me suis. Mais encore une fois, si je parle de littérature, bien sûr.
Voilà, je ne sais pas qui a dit qu'il faut deux mains, qu'il faut avoir deux mains pour écrire. Et je crois qu'il faut avoir deux métiers lorsqu'on est dans ce métier-là, le métier du livre. Et nous avons également avec nous Richard Sondorfé, qui vient de publier un recueil de poèmes en créole, toujours qui les ateliers du soir. Bonsoir Richard Sondorfé, bienvenue et à cette émission.
Bonsoir, bien, et c'est vraiment un plaisir pour moi d'être là. C'est mon deuxième recueil en créole. Et j'ai déjà publié, je crois, mon équipe en français, mais pour, en créole, c'est mon deuxième recueil. Donc, mon recueil, c'était Sans Tragédie, c'est une édition, et je me rappelle, c'est Paul d'Agenture aux États-Unis, et puis, Bouquet d'Alain Conciel, c'est une édition Atelier pour soi.
Voilà.
Ouais, c'est ça.
Oui. Eh bien, et ça va être une très belle émission, je suppose, puisque nous allons non seulement parler de la poésie, mais également de la langue créole, puisque les personnes d'Orsay n'ont fait que publier le recueil de poèmes en créole, c'est ça?
Oui, c'est pas ça.
Non, le plus jeune, c'était Tchakagédé.
Il s'est dit le recueil en créole, mais en français, c'est beaucoup plus environ 8.
D'accord, les personnes. Et nous allons également nous entretenir avec les différents sur ce livre-là, Jaïr et la solution, mais je vais commencer par vous demander, Mehdi, est-ce que le choix de la forme, encore le choix du genre, s'est donc posé, s'est imposé à vous, est-ce que lorsque vous aviez envie, l'idée de faire ce livre, est-ce que vous avez pensé à commencer par la poésie, ou par un roman, ou par un recueil de nouvelles, est-ce que vous avez eu envie de faire un recueil de nouvelles comme votre premier ouvrage?
Non, absolument pas, parce que c'est de l'histoire personnelle de la littérature, celle de la poésie, en tout cas, ce qui concerne la lecture, c'est pas ce qui concerne la lecture, bien sûr. Il n'y a pas eu de choix ou de décision parce que je voulais écrire ou bien de décision qui n'a pas trop longtemps. Le roman, la prose, la nouvelle est quelque chose qui s'explore, bien sûr, mais c'est-à-dire que là, en ce moment, la forme d'expression principale, c'est la poésie. Et lorsqu'il a fallu, disons, publier un recueil, ou je me suis dit que peut-être confronter mon écriture avec un lecteur, je vais faire, bien sûr, je suppose, à partir du moment où de la production de l'univers, etc. Mais j'écrivais de la poésie, j'ai écrit de la poésie pendant très longtemps, et d'essayer de fabriquer des objets aussi sur ce que je fais avec les théorèmes que je faisais. Et celui-là était l'une des possibilités.
Oui, est-ce que vous pensez que la poésie est donc une sorte de passerelle ou encore un tremplin qui permet d'accéder à des gens dits supérieurs ou à des gens comme le roman, l'essai? Est-ce que vous pensez qu'on doit nécessairement commencer par la poésie?
Il n'y a aucune sorte de nécessité. Qu'il existe des gens, qu'il existe des affinités, qu'il existe des communications, des gens qui soient le talent ou le goût de pratiquer plusieurs gens, même des qualifications de la société, bien sûr. C'est un fait que lorsqu'on écrit une expérimentation, en tout cas une expérimentation dans le langage de l'envie, écrit dans notre langue, c'est pas dit qu'on puisse déjà, on peut avoir là, c'est bien dans un art, vu qu'on est d'ailleurs des gens qui se disent poètes, qui se disent poètes, qui se définissent comme poètes, et qui ne considèrent pas aussi bon pour être écrivain, ils disent ça. Ou des gens qui se sont occupés dans leur production romanesque par le plaisir de l'inverser. Je pense que c'est parce qu'il y a un rabais, mais pour ce qui est de l'essai, je suppose que la plupart des gens qui écrivent avec sa vie ont une certaine, autre que la littérature, les gens qui sont en ligne, peut-être qu'ils veulent réfléchir sur le rare, ou peut-être qu'ils veulent réfléchir sur le film, sur la vie, sur la société, et tout en plus que ça, ils peuvent l'encourager. Cependant, encore une fois, c'est le cas par cas pour moi, c'est-à-dire le droit général.
Et je voudrais bien entendu entendre le point de vue de personnes d'orphée sur ce sujet, le fait que la poésie est souvent considérée comme un genre intermédiaire, c'est-à-dire un genre par lequel une porte d'entrée dans la littérature. Est-ce que vous pensez que, en tant que poète, que vous êtes dans une sorte de transition vers le romanesque, vers le roman, ou est-ce que vous êtes entièrement poète?
Oui, c'est une question assez intelligente, et j'ai tout plaisir à écouter mes filles qui parlaient de ce dynamisme-là. Pour moi, il faut situer cette question dans le contexte historique. C'est-à-dire, le drôme étant la poésie, c'était le genre dominant. C'est-à-dire, autrefois, quand on écoutait de la poésie, on était plus en vue, contrairement à ceux qui font du roman. Maintenant, c'est un peu l'inverse, parce que le roman, c'est le genre dominant, ça devient le genre dominant. Mais c'est plutôt une forme de dynamisme, en tout cas.
Mais ça n'empêche pas que les romanciers commencent par la poésie. Les meilleurs.
La poésie, c'est une construction historique, c'est-à-dire qu'il faut situer ça dans le temps et dans l'espace. C'est-à-dire qu'il y a une idée. Et dans deux ou trois ans, ça peut être le contraire, on espère. Mais ce qui est important, souvent, il y a des jeunes qui étaient d'abord dans ce genre poétique pour arriver au roman. Et les jeunes passent par la poésie pour arriver au roman. Ça, c'est un effet.
Pourquoi?
Évidemment, c'est peut-être parce que pour eux, la poésie, c'est plus facile à manier, c'est plus facile à aborder. Parce que le roman, c'est quand même toute l'énergie à gaspiller aussi, parce que imaginez, la poésie, ça, c'est un peu cette preuve de synthèse, c'est un peu cette preuve de sacrifice aussi, en quelques mots, on dit tout en quelques mots. Mais en quelqu'un qui fait le roman, c'est différent, c'est-à-dire il faut remplir des pages, il faut des inaptiques et pour arriver au moins à 100 pages, 200 ou 300 pages. Et pour ça, dans la poésie, c'est un peu différent. Mais ce qui est important à souligner, parfois, les gens qui s'exercent dans la poésie et sont enclins à utiliser beaucoup plus le style, les métaphores, et tout ça, les techniques d'écriture, etc. Parce que parfois, même les historiens ont. Ça peut se tourner de ne pas maîtriser les formes d'écriture, les genres littéraires, parce que finalement, il y a des historiens qui sont très puissants, qui ont des thèses assez formidables, mais qui n'ont pas pu maîtriser les difficultés des poésies. Mais quand on passe par la poésie, généralement, on a une
facilité, on a une
facilité. Ou d'écriture, tout ça, et tout ça au niveau des styles, etc. Mais là, il faut être prudent, il faut nuancer, c'est-à-dire il faut situer ça dans le temps, dans l'espace, parce que c'est pas toujours ainsi. Autrefois, quand on faisait de la poésie, on était parmi les gens dominants, tout ça. Mais aujourd'hui, c'est un peu l'inverse, parce qu'il y a toute une machine qui est derrière le roman. Il y a des éditeurs qui s'intéressent. Je ne fais pas de roman, si on ne fait pas de roman, et on ne va pas publier. C'est un peu ça.
C'est la faute de la parole dans les deux écrivains, je ne sais pas pourquoi.
Je pense que c'est d'abord un choix. Un choix d'écriture, c'est aussi un choix idéologique. Par exemple, moi je viens d'Haïti. Parfois, il arrive que je fasse un petit coup de pied en Europe ou en Amérique du Nord ou dans d'autres continents. J'ai appelé en Haïti comme mon territoire. C'est là que je vis, c'est là que je suis né, c'est là que je connais des belles amours aussi, je comprends toutes sortes de choses, bonheur ou malheur, etc. Et bien, dans ce pays, on parle créole, on parle français. Je pense que le bilinguisme équilibré, c'est-à-dire, pour moi, le bilinguisme, c'est une richesse. Il faut, en quelque sorte, et quand on vient ici, en majorité les gens parlent créole, ils sont plus en créole, parce que si on fait de la littérature, c'est pas pour jouer, c'est pas pour faire plaisir à la classe dominante ou au statu quo, si on fait de la littérature, c'est en quelque sorte pour essayer de répondre à des problèmes collectifs, c'est-à-dire qu'il faut placer la littérature au service du bien commun. À quoi ça sert de faire de la littérature si on ne peut pas changer les choses, si ça ne peut pas. Et il y a un mot que moi je dis, on aime vraiment bien, c'est la littérature sociale. On fait de la littérature pour agiter la démocratie, pour agiter le champ politique, le champ littéraire, etc. Il faut pas être créole. Il y a des gens qui lèvent créole, qui parlent créole, qui ne peuvent pas comprendre le français, qui ne peuvent pas comprendre des. Qui ne peuvent pas lire le français, il faut écrire pour ces gens-là. Le français, en quelque sorte, ça peut être une langue d'étudiant. Il faut en tenir compte. Il faut faire de la littérature, il faut. En même temps, il faut écrire en français, mais il faut s'intéresser aussi au créole, qui est un peu la langue populaire. Et le français, si on fait une analyse relative au champ linguistique, on va voir que le français, ça reste une langue dominante. Ça part du point de vue politique ou du point de vue scientifique, etc. Il y a des gens qui écrivent en français. Bon, il y a d'autres personnes qui ont essayé d'aborder cette question. Et il a dit que par le français, ça ne veut pas du savoir. Malheureusement, il a écrit dans les conseils collectifs. Les gens qui parlent le français, ils pensent qu'ils parlent de politique, d'une conscience collective ou de la destinée collective. Tout ça. C'est-à-dire qu'il faut faire attention, il faut écrire pour les gens qui parlent le français.
Ok, oui, mais différemment, je voudrais. Et vous entendre sur ce point de vue, parce que votre recueil de poèmes Jaillir et la solution, et votre premier est donc écrit en français. Est-ce que vous avez pensé à faire un livre en français ou en créole, ou est-ce que le livre est venu comme ça en français, dans cette langue-là, ou est-ce que vous avez pensé à faire un choix entre, ou encore un arbitrage entre le créole et le français? Quelle langue dois-je utiliser pour parler aux autres, en plus de ce lieu-là que les personnes d'Orsay vont nous parler? Est-ce que le poids de la langue est donc posé à
vous? Oui, on n'est plus jamais mis comme ça. Est-ce qu'on ne se pose pas de questions? Est-ce qu'on se pose pas de questions? Sur le rapport à la langue, etc. Mais c'est évident que la langue en Haïti est quelque chose qui concerne à la fois l'individu comme son expression dans sa vie. Et ce qui a un rapport avec la personne, donc de manière violente parfois. Donc oui, c'est une langue d'exclusion, oui, c'est une langue qui produit de complexe, oui, c'est une langue qui produit une certaine adultération, enfin, c'est certain. C'est une langue avec laquelle on a des rapports vraiment pas toujours extrêmement intéressants. Qui peut produire vraiment des rapports pauvres, des rapports d'aliénation totale. Bon, c'est pour ça que dans le monde américain, j'ai la place, je pense que vraiment extrêmement importante, c'est ce rapport à la langue qui est interdit, qui est aliénant, qui produit des réductions. Et qui la pédanterie aussi. Le français a à la fois la langue du savoir et la langue de la pédanterie. Donc tout ça est présent, et bien sûr, donc, quand on dit qu'on grandit avec le cœur français, c'est une langue maternelle. On ne peut pas se dire concerné par de la littérature, par la création, par la communication, par le langage. Le sport, c'est que le langage de masse, c'est que le langage nation, et pas de vue la question du créole dans le regard de l'homme. Donc, un poète peut décider d'en discuter, de ne pas écrire un créole, c'est-à-dire simplement parce qu'il ne peut pas écrire un créole, c'est pour arriver. Inversement, c'est peut-être encore plus problématique quand quelqu'un pourrait écrire un créole et écrire un français. Donc, se confronter à la question du créole, se confronter à la question du linguisme, c'est quelque chose qu'on est obligé de faire quelque part. Je pense que quelqu'un qui dirait qu'il n'y a pas de problème mentirait.
Voilà, nous allons rapidement entrer dans les livres, puisqu'il faut parler des livres. Jaïr et la solution paru chez les ateliers jeudi soir de Mehdi et Saint-Germer. Gougandaï, la cancielle, paru également chez les éditions Ateliers jeudi soir de Wilkerson et Dorsey. Mais bien avant, nous allons observer la pause de nuit. Avec Diana Kral, nous allons écouter Temptation, qui est une très 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 belle composition, et puis après la tentation, nous allons revenir à la police. On écoute Diana Kral, Temptation.
Everything is me, so why is me to run so only the fool knows how to think. Thank you.
Tu le front, tu délivres les yeux. Tu singes les mains immenses, l'univers et la misère du monde. Toi visible de crucifix l'ombre, pareil par le bois imbibé de battements, toi la poutre où l'on s'adosse sans réfléchir, lorsque tes yeux s'abattent comme des cris de miséricorde. Sans le jour et sans rien, toi qui marches à pied dans la zone sûre des quatre roues. Dans le bonheur de grand phare, dans la nuit très effroyable, illuminée par la vitesse, en fanfare de notre solitude, grande solitude, je sais de quoi je parle, le monde me dépasse de l'aide. Voilà un poème qui peut encore tirer de repos jaillir à la solution de Midi Salmès. Et lorsqu'on lit le recueil, ce recueil, on pense, je ne sais pas si c'est une idée aussi, on pense naturellement à votre formation de philosophe, puisque non seulement il y a une sorte de symbolique dans le fait de créer les poèmes par le chiffre, et également le chiffre, l'intervalle, est de 1 à 33, 33 sur le plus large du Christ, où il dit à l'air que ce serait plongé dans ce que je pourrais appeler une sorte de symbolique, de symbolisme philosophique, ou encore une quête d'une vérité par les chiffres, par la numérologie, comme on dit.
Le symbolisme n'est pas gardé de philosophe, et il faut le Thank you.
Tout à l'heure, je parlais de la quête de l'homme, la quête de la misère humaine, ou encore de la condition humaine, mais de l'humaine condition. Mais il y a également cette quête de soi, comme si on pouvait partir de soi pour aboutir aux autres. Par exemple, dans la chute du poème, tu dis « L'âge d'or ainsi peut-être brille dans le noir, je creuse un tunnel de rat aveugle, je ne peux m'atteindre. » Est-ce que tu serais dans cette quête-là, la recherche d'un soi qui serait ou pourrait être considéré comme un autre? Est-ce que le soi est donc inaccessible? On pourrait atteindre ce moi-là et ce moi pourrait être un autre.
Non, sérieusement, ce qu'on a pris pour soi, lorsqu'on médite, lorsqu'on pose certains sujets comme le rapport à moi-même, le rapport aux autres, et puis lorsqu'on a pris pour soi, et puis,
Donc,
j'essaie un peu ça, j'essaie un peu, je suis pas psychologue, mais j'essaie de parler des choses, etc., sans pour autant être excité.
Bon, je vais te donner un exemple, parce que je l'avais lu dans un second poème. Tout a dit des tiens, des plus vifs de ma soie, l'un pour les atlants, n'ont pas tout décollé. Et il y a dans les papes décollé non plus. Soleil à l'île, réveillé à tout point, d'un point de l'angle. Je souffle de temps en temps, l'angle, son doute ma force.
Et là, j'essaie un peu d'aborder la question de la condition humaine, parce que parfois, je prends l'amour comme prétexte pour arriver à autre chose, c'est pas là, au niveau de la politique, c'est tout là. Là, c'est un peu un fait de plaidoyer pour m'expliquer qu'en faveur du collage du pays, un pays ne peut pas décoller si il n'y a pas vraiment une institution, il n'y a pas vraiment un instrument de.
Et bien sûr, et je comprends que ça passe par l'érotisme, que ça permet de mobiliser beaucoup plus de gens, mais également il y a une question de langue. Est-ce que la langue là ne serait pas, ou encore ne pourrait pas être, le théorie également, puisque vous évoquez la langue organe, mais est-ce que vous n'évoquez pas la langue de la communication, est-ce que, ou encore le créole, est-ce que dans ce livre, vous ne faites pas, ou dans ce poème-là, vous ne faites pas une sorte de double plaidoyer, non seulement pour que nos langues, je dirais, se séparent.
Oui, la comparaison, c'est un peu un choix politique. Pour moi, la politique, ça peut être une âme politique. En quelque sorte, c'est pas une âme à diplomatie, va plutôt après cette diplomatie. Et avec la poésie, on peut essayer de s'emballer les choses, on peut essayer d'aller plus loin, d'aller. Bon, on peut essayer de changer les choses aussi. Parce qu'il y a vraiment aussi un peu de l'utopie. C'est-à-dire, les gens, dans le pays, on n'a plus des utopies concrètes, des utopies réalistes. C'est-à-dire, c'est les gens qui rêvent dans le pays, mais qui rêvent avec les plus, etc. C'est un peu ce que doit être lui-même dans les différentes choses qui sont écrites. Je ne sais pas si vous avez réussi à bien mener ce qui doit être.
Voilà, et c'est une sorte de dire, vous avez employé un mot d'engagement érotique, de votre part, mais tout à l'heure tu as dit quelque chose, je veux changer les choses, je vais demander à mes différents, que peut la poésie, est-ce que la poésie peut changer une chose, peut changer les choses? Est-ce qu'on écrit dans le fait de la poésie pour changer les choses? On croit que la poésie a cette capacité-là de modifier le réel, pour ne pas être trop philosophe. Est-ce que la poésie peut changer les choses?
En général, on veut être efficace. La voix, le poème, la masse, la perception. Ce qui se passe, en fait, c'est que nous parlons de quelque chose qui est abordé parce que la poésie est massivement présente dans nos corps, dans notre histoire, dans notre tradition, dans notre perception, dans ce qui fait de nous des êtres d'autres. Donc, évidemment, il n'y a aucun moment où on peut abandonner la poésie pour. Dans le combat pour le changement. Il n'y a pas de possibilité d'abandonner la poésie. La poésie est ce qui est étendue et ce qui n'a pas possible de se produire, que ce soit à travers la poésie, que ce soit à travers la poésie d'avant, que ce soit à travers la poésie. Donc, le fait que l'homme qui se bat pour le changement s'exprimera à un moment donné ou à un autre dans le champ politique. Nous sommes en train de faire et que nous pouvons combattre. Ce poème de combat, en réalité, je parle de poème engagé, le poème engagé, c'est ce que je raconte sur les autres, etc. C'est bien que nous, c'est ce qu'on fait ensemble. Donc, tout le temps, dans les deux revendications, dans les autres, dans les manifestations, les gens parfois qui se produisent pour cela. Dans le problème de situation qui est bon de manifestation, il y a tout, parce qu'on a le talent de faire pour la manifestation, mais ce qui school de base, je vais faire à l'eau, je pense que c'est pas grave. Donc, c'est pas du tout ce qui se passe pour leur proposer un soin. Ça paraît être un petit peu ça paraît peut-être être une certaine forme de poésie qui est de la réalité, mais la poésie vit sa vie, parce que l'œuvre, pour exemple, la vie même, on ne peut pas faire abstraction parce que, par exemple, certaines personnes vivent dans un état de difficulté telle. Elle n'a pas le temps pour la poésie, elle ne peut pas poser pour faire mieux dans un temps. Pas parce qu'on a imaginé que cette personne est sensible à la beauté, mais que quelque chose comme un poème ne peut pas lui donner de force. Que cette personne sente, sent dans la rue, sent que le soleil. Donc le rapport à la beauté, pour moi, il est certainement le même, le rapport à la poésie, et ce qui se dit. Donc à la fin, tout simplement, bon, facile, la poésie change la chose. Mais qu'est-ce que ça devrait être valable? Est-ce que c'est pas un milieu au vent de l'humanité des gens? De l'humanité des gens? C'est la poésie.
Pourquoi vous pensez que vous avez eu la production de la poésie à vous qui vous êtes bien? Qui vous êtes bien? Qui vous êtes
bien? Je ne sais pas si c'est ce que vous avez eu. Quelle mesure vous avez eu de la relation de la poésie? Est-ce que ce sont des choses qui sont expérimentées dans votre part de la vie de la poésie? Est-ce que vous avez eu de la difficile de soins de questions qui sont rajoutées, qui n'ont pas pu l'entendre, même si c'est un peu plus important de la poésie. Donc oui, dans une certaine mesure, par rapport à la demande de l'action, peut-être que c'est un peu plus important. Encore faudrait-il que le poème soit lu, soit connu, qu'on en parle. Donc, je crois que pour moi, en tout cas, et pour chaque lecteur, il y a quelque chose qui est à l'heure. La langue, le monde, parfois.
Peut-être que vous avez peut-être prononcé l'invitation ou l'engagement, ça peut être au niveau scientifique ou éthique, ça peut être aussi au niveau social.
Il y a des mots.
Voilà, du coup, on va ajouter un sondage quand même quand on écrit son temps production, que ce soit au niveau scientifique, éthique, et tout sur le sens. Parce que le sens de l'autre, avoir le sens de l'autre, on sait que l'autre existe, ça veut dire que ça peut parler juste simplement que. C'est important que les boulets
soient. Je suis tout à fait d'accord avec Paul Jackson. Et quand on est en train de parler d'engagement, je pense que c'est quand même le temps de la vie sur l'engagement. Mais c'est un autre débat, mais il n'y a même pas évoqué la thématique de l'engagement dans les hiérarchies. Et je pense que nous sommes arrivés à la fin de l'émission Livre 9. Je vais tout simplement rappeler que les livres de Mehdi Salmers et de Carson Dorsey seront à Livre en folie disponibles. Et le livre de Mehdi Salmers sera sur le stand des éditions Rupture. Et le livre de Carson Dorsey également, je suppose, puisque les deux sont parus. On parie que l'édition a tenu des histoires.
Également, on travaille sur une revue, vu que c'est un temps de deuil, vu que l'histoire que ça
n'a pas que sur le temps de l'histoire de ce donc peut-être que
c'est un peu bon. Et ça, vous êtes déjà à l'heure, je vous invite donc c'est une invitation encore en direct, ce que nous avons fait pour venir parler de la revue 360°. Eh bien, ça a été un plaisir pour moi de vous recevoir sur le plateau de Livre 9. Marie-Pierre, je vous dis merci à vous tous et à vous toutes. Merci, Mehdi.
Merci beaucoup.
Voilà, je rappelle que Livre 9 est une émission proposée par la radio Magic 9 en partenariat avec la revue de littérature. Je vous laisse avec la chanson La Compound de Laya Naravaz à dimanche prochain pour le nouvel épisode. Au revoir.
Thank you. Le plus de 3 de préférence, de pièces de théâtre, de débat, d'exposition.